Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand nous a parfois parlé d'histoire américaine, mais jamais encore de la grande aventure du 19e siècle aux États-Unis, la conquête de l'Ouest. C'est donc une première qu'il nous propose aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Après l'émission que nous avions consacrée il y a quelques semaines aux Sioux de la prairie, je me suis dit qu'il serait bien de parler aussi de ceux que nous appelions dans les cours de récréation les cow-boys, vous savez, ou juste avant eux, de parler un peu des pionniers de la grande conquête, ces populations migrantes du Far West.
Et pour nous mettre dans l'ambiance, vous vous êtes plongé dans un des épisodes les plus noirs de cette conquête de l'Ouest.
Oui, peut-être le plus terrible de tous, puisqu'il y est question d'actes de cannibalisme. Outre-Atlantique, cet épisode est connu comme le Donner Party, du nom du convoi de chariots bâchés tirés par des bœufs dans lequel avaient pris place quelques pionniers du Grand Ouest, dont le destin sera tragique et même, vous allez voir, pire que cela.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
...1846 dans le Grand Ouest américain. De très hautes montagnes dressent leurs masses grandioses sur l'horizon. C'est la Sierra Nevada, juste à l'est de la Californie. Il ne manque plus qu'un John Ford ou un Howard Hawks pour évoquer ce décor sublime en cinémascope. Au premier plan sur l'écran, tout un convoi de chariots bâchés, tirés par des paires de bœufs. Ces hommes et ces femmes venus de l'Est et du Middle East, en l'occurrence de l'Illinois, juste au sud des Grands Lacs, ces migrants du milieu des années 1840 sont emblématiques de la formidable poussée vers l'Ouest de ces populations d'Américains intimement pénétrés de leur droit à coloniser les nouvelles terres du continent, quitte à en exterminer les occupants amérindiens, quitte à en chasser les autres peuples, notamment les hispano-américains du Mexique, qui sont chassés du Texas dès 1835. Au Mexique, 12 ou 13 ans plus tard, les États-Unis soustrairont également la Californie. Voilà de nouvelles terres bien riches sous un climat propice, de nouvelles terres à prendre. Au fort attrait déjà exercé par le Grand Ouest sur ces populations de l'Est des États-Unis, des populations qui vont s'accroître sans cesse par l'immigration, à cet attrait viendra se greffer en 1848, 49 et 50 le phénomène de masse de la ruée vers l'or. Mais en 46, l'année qui nous intéresse, on n'en est pas encore tout à fait là. Au printemps de 1846, la famille Graves, le père Franklin, la mère Elizabeth, leurs 6 filles et leurs 3 garçons, les Graves donc quittent l'Illinois démunis avec l'espoir de trouver, sinon la fortune, du moins de bonnes terres, là-bas, tout là-bas, à l'ouest, en Californie. Go West. Les Graves ont vendu la ferme. Ils ont acheté des bœufs de trait qu'ils ont attelés à 3 chariots munis d'arceaux, vous savez, recouverts de belles bâches blanches comme les voiles de caravelles terrestres. Des chariots où s'entassera tout ce qu'ils possèdent. Et voilà le début de la grande aventure, un voyage qui pourrait bien durer 15 semaines, peut-être 18, 3500 kilomètres à couvrir au pas des bœufs jusqu'à cette terre promise californienne. Ils n'ont pour viatique que le guide de Hastings, qui est une sorte de manuel de circonstances bourré de recommandations à l'usage des candidats à la conquête, et pour compagnons, nos aventuriers, si j'ose ainsi les nommer, ont un certain John Snyder, qui a été enrôlé par Franklin juste avant le départ, un intrus Snyder, mais qui plaît tout de suite aux demoiselles Graves. L'aînée, Sarah, vient du reste de se marier, elle a épousé Jay la veille du départ, Jay fera donc partie, lui aussi, de l'incroyable expédition. Alors, Évidemment, je ne peux pas, malheureusement, j'aurais bien aimé, je ne peux pas vous raconter dans le détail toute l'équipée des Graves. Pour eux, pour tous les auditeurs que ça pourrait intéresser, je vous donnerai tout à l'heure les références du grand récit qui relate tout cela par le menu. Sachez seulement pour le moment que les Graves, à mesure qu'ils cheminent vers l'ouest, vont se lier naturellement à différents convois qui empruntent les mêmes routes qu'eux et qui ont sans doute, qui partagent forcément les mêmes rêves. Sachez surtout qu'ils ne vont pas tarder à rejoindre le gros convoi dirigé par George Donner, un riche fermier de 62 ans, qui vient lui aussi de l'Illinois avec sa troisième femme, la petite et très énergique Tamsen, et une partie de leurs enfants. Le convoi Donner, auquel s'est joint d'ailleurs la riche famille Reed, ce convoi formait déjà une belle caravane d'une dizaine de chariots, dont un très luxueux à deux étages et d'une quarantaine de migrants. Donner a choisi de suivre un raccourci indiqué par le fameux guide Hastings. Et c'est ainsi que le convoi Donner, qui va pas cesser de s'accroître, il se composera un jour de 40 chariots, pas moins. C'est ainsi que ce troupeau de chariots bâchés abat les kilomètres et traverse les rivières. Ça, c'est la grande difficulté en l'absence de pont. Il faut parfois construire des radeaux. Les pauvres pionniers courageux, serrant les poings, affrontent jour et nuit un environnement de plus en plus hostile, environnement rendu pénible par un froid précoce. Le 1er juin, on se croirait en novembre. Il y a aussi des pluies incessantes. Or, les toiles du campement sont loin d'être bien étanches. Et quand le beau temps revient, alors il faut affronter encore la chaleur, la soif, les moustiques et toutes sortes d'accidents plus ou moins graves, j'en passe. Tous ceux qui connaissent un peu l'Amérique du Nord savent à quel point le climat y est toujours rude, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Précisons tout de même que les chariots sont réservés au matériel, si vous voulez. Alors, de temps en temps, on fait monter les malades, mais les gens valides ou prétendus tels doivent aller à côté, à pied le plus souvent, pour soulager les animaux de trait. C'est donc un exode harassant. Au comptoir commercial de Fort Bernard, on s'équipe tout de même de chevaux. À cet endroit, la longue caravane croise la route de plusieurs centaines de Sioux. C'est toujours très impressionnant, évidemment, pour les populations d'origine européenne de l'époque. Les Sioux, il faut les imaginer avec leurs ornements d'apparat, on en a parlé il y a quelque temps. Ils font l'admiration secrète des voyageurs, à commencer par la deuxième fille des Graves, Mary Ann. Mary Ann est un esprit curieux. Elle a quelque chose d'aventurier dans le sang. Du reste, un jour qu'elle chevauche derrière le chariot de ses parents, aux côtés de son frère William, plusieurs Sioux viennent les entourer et ils proposent d'acheter Mary Ann. Le tarif pour une jeune femme est généralement de 2 Mustangs. Vous savez, les Mustangs sont ces superbes chevaux. Mais cette fois, les acquéreurs semblent prêts à tripler la mise, à la quadrupler même. Les Sioux ne sont pas seuls. Évidemment, on leur vendra pas Mary Ann pour autant. Ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à cette demoiselle Graves. John Snyder, vous savez, l'homme de main recruté par Franklin, a lui aussi jeté son dévolu sur elle. Mary Ann est flattée. Elle lui concède de temps en temps un baiser volé, mais elle ne se sent pas prête à lui donner davantage. Alors, le fameux itinéraire suggéré par Hastings à Donner s'écarte en vérité de façon très notable de la route connue. Or, il va passer cet itinéraire par le désert de sel de l'Utah. Il présente à l'évidence de grands risques. D'ailleurs, l'épouse de George Donner, Tamsen, l'a dit, elle l'a répété, seulement personne ne l'a écouté. Les femmes à l'époque n'ont pas vraiment voix au chapitre et les leaders du groupe ne jurent que par Hastings, l'auteur du fameux guide. C'est ainsi que la caravane s'engage sur un chemin fatal.
De la BO de Vorace sur Europe 1.
Alors le 22 août, le convoi d'honneur pénètre dans la vallée du Grand Lac Salé. La soif se fait sentir cruellement. Bientôt, les bœufs et les mules, qui ont été rendus fous par la soif, vont s'enfuir et disparaître dans le désert, un désert blanc de sel. Et tout ça oblige les pionniers à abandonner une partie de leur chariot avec tout ce qu'ils transportaient. Commence ce que France Beckett, dans le captivant récit qu'elle vient de faire paraître, appelle « l'enfer du sel ». ciel. Un paysage désolé, sans point d'eau, recouvert d'une sorte de croûte de sel qui luit en plein soleil, les membres de l'expédition ont enfin pris conscience de leur erreur. Ils savent que sans secours, ils ne pourront sans doute pas s'en sortir. Le 11 septembre, ils envoient deux émissaires à cheval en direction du Fort Sutter en Californie. Ils ont pris soin de choisir un père de famille parmi les deux hommes en question, laissant derrière lui sa femme et son enfant. Il devait être moins tenté de les abandonner à leur sort funeste. Vous voyez qu'on en arrive à des considérations qui deviennent des considérations radicales. On est presque déjà dans les conditions extrêmes. Au sein du groupe, les tensions sont terribles. Des disputes ne cessent d'éclater et c'est au cours de l'une d'elles que James Reed finit par planter son couteau dans la poitrine de John Snyder, le fiancé officieux de Marianne. C'est un drame, mais ce n'est encore que le premier d'une terrible série. Un autre homme va bientôt mourir, du reste trop âgé, trop épuisé pour continuer. Il préfère se laisser mourir sans que les autres tentent quoi que ce soit pour l'en dissuader. Est-ce que le désespoir serait en train de transformer ces hommes et ces femmes en animaux ? Nous n'avons encore rien vu. Les pionniers du convoi Donner, comme une horde de morts vivants, se traînent maintenant aux limites du Nevada. La caravane se disloque. C'est déjà le règne du chacun pour soi. Ils ont survécu à la soif. Maintenant, ils sont parvenus sur les bords du lac Truckee, qui bientôt sera rebaptisé lac Donner, en mémoire de la tragédie qui se profile. C'est déjà l'automne et il neige sans discontinuer. Vous imaginez les souffrances infligées par le froid maintenant et par l'humidité à de pauvres gens qui n'ont vraiment pas grand-chose pour se protéger. Le 12 novembre, une quinzaine de volontaires, dont Marianne, tentent de profiter d'une embellie pour partir à leur tour à la recherche de secours, mais la neige trop épaisse s'oppose à tout échapper et le soir même, ils seront obligés désespérés de rebrousser chemin jusqu'au camp. Ils feront encore les uns et les autres bien des tentatives en vain et ainsi, un bon mois plus tard, le 16 décembre, Marianne se retrouve de nouveau au milieu d'une petite troupe de 14 jeunes gens qui, laissant derrière eux leur adieu déchirant, les pionniers plus âgés vont essayer d'aller chercher des secours. Alors parmi ceux-ci, il y a tout de même Franklin Graves, vous savez, qui lui est âgé de 57 ans. Il a eu le courage de se joindre à cette équipée de la dernière chance. Désormais, au camp, parmi ceux qui restent, les décès vont se succéder. Le 25 décembre, parmi les rares qui ont encore assez de force pour se souvenir que c'est Noël, on sort les ultimes, on sort les misérables provisions et l'on organise le plus pathétique des repas de fête. Des pommes séchées, quelques haricots, quelques petites tranches de tripes et de lard. Du côté des éclaireurs, du côté de ce qu'on appelle la troupe sacrifiée, Franklin sent venir la mort. Alors à ce moment-là, il va faire venir auprès de lui ses deux filles, Marianne, notre Marianne, et Sarah, et il leur adresse une supplique. Je cite ici le récit de Franz Beckett. « Mes filles, écoutez-moi, défendez vos vies, sauvez les prisonniers du camp à n'importe quel prix, n'ayez aucune crainte de péché. Devant le Dieu de miséricorde, je vous en conjure, survivez. Pensez à vos frères, à vos sœurs, à votre pauvre mère. Les filles ne disent rien, elles sont paralysées par l'émotion. Le père leur a saisi le bras. Il s'y agrippe comme un noyé, il souffle. Dans une quinte de toux, il se redresse soudain, il se débat, puis retombe, explique Franz Beckett. Il est livide, il cherche son souffle, et dans un dernier râle, il chuchote « Mangez-moi ». Sarah s'effondre dans les bras de son mari. Marianne ferme les yeux de son père. Elle est pétrifiée. Son père, cet homme droit et si admiré, leur enjoint de transgresser le tabou absolu. Elle n'a que 19 ans, mais elle se sent soudain accablée comme une très vieille femme. La détresse l'envahit, le dégoût la submerge. Elle n'est plus qu'une morte vivante. Dans l'après-midi, la neige cesse de tomber. Tous sortent de leur abri. Ils crèvent de faim. Ils n'ont absolument rien mangé depuis 5 jours, ils n'en peuvent plus, ils ne peuvent plus reculer. L'heure de l'impensable a sonné.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous sommes cet après-midi sur Europe 1 sur les traces des pionniers du convoi d'honneur.
Et je suis plongé avec vous dans ce récit de Franz Beckett qui s'appelle « Ma grand-mère cannibale » et qui est édité par Prisma. Dans une demi-torpeur, écrit-elle, on déshabille les cadavres, ils sont sales, ils ne se sont pas lavés depuis longtemps, il faut les frotter dans la neige, les bouchers improvisés ont des haut-le-cœur et des nausées, cette tâche est horrible, épouvantable, ils ne sont plus que des bêtes affamées. Sur les 15 membres de la troupe sacrifiée, 5 femmes et 2 hommes seulement auront survécu et un seul des hommes n'aura pas été mangé. Le 17 janvier 1847, les 7 survivants, plus morts que vifs, vont finir tout de même par atteindre un village d'Indiens. Ils pourront dès lors enfin faire prévenir le fort Sutter, alerter les secours. Et là, 4 équipes de sauveteurs se rendront successivement au lac Donner. Au total, sur les 87 pionniers du Donner Party, 41 sont morts dans les conditions que vous connaissez maintenant. Quant aux autres, ils survivront. Oui, ils survivront, mais à quel prix ?
Extrait du film d'Antonia Bird, de Vorace, sur Europe.
Alors, le 16 mai de cette même année 1847, Marianne Graves va épouser l'un des secouristes du lac, un de ceux qui faisaient partie des équipes qui sont allées sauver les survivants. Il s'appelle Edward Grant Pyle Jr. Seulement, cet époux va disparaître un an plus tard, dans des conditions qui d'abord paraissent mystérieuses, et puis assez vite on comprend ce qui s'est passé. Il a été attrapé au lasso par un tueur à gages, traîné derrière un cheval sur plusieurs centaines de mètres, une sombre affaire de règlement de compte. Certains êtres paraissent ainsi nés sous le signe de la tragédie. Où Mary Ann ira-t-elle chercher la force de surmonter ce nouveau coup du sort ? Pour tout vous dire, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'elle se remariera 4 ans plus tard, qu'elle fondera une famille et qu'aujourd'hui, dans ce studio, son arrière-petite-fille est avec nous. Elle est l'auteur du grand témoignage dont j'ai tiré ce récit. Bonjour France Beckett.
Bonjour.
C'est très poignant ce que vous avez écrit. Sur quoi vous êtes-vous fondé pour raconter la terrible aventure de vos ancêtres dans ce grand ouest américain ?
Eh bien, si on se cantonnait à la France, effectivement, ça serait très difficile de trouver des documents. En revanche, aux États-Unis, c'est une histoire qui est enseignée dans les écoles et aussi connue qu'ici, le bûcher de Jeanne d'Arc. Et à tel point que le mot « Donner Party » est devenu un mot commun. Et on dit, par exemple, cette course cycliste était un véritable « Donner Party ».
C'est-à-dire que c'était une apocalypse.
Voilà,
c'est devenu l'enfer du Nord, synonyme de l'enfer.
Exemple, oui. Donc, aux États-Unis, c'est tout à fait courant et banal. En revanche, quand j'ai commencé à m'y intéresser, il n'y avait absolument rien. C'était il y a à peu près 10 ans. J'ai commencé à étudier la question parce que j'étais fasciné par cette famille Graves. Que je n'ai connu que très peu les descendants, puisque mon père, qui était le petit-fils, je ne l'ai pas connu. Donc il a fallu que je parte, sans du tout les archives familiales, que je parte des documents existants, des centaines de livres, des milliers d'articles qui sont aux États-Unis partout.
Comment expliquer qu'ils aient suivi aveuglément les conseils de ce fameux Hastings et qu'ils se soient fourvoyés à ce point, ces pionniers de l'Ouest ? Ils voulaient simplement gagner quelques jours sur la durée de ce voyage très éprouvant ?
C'est ce qu'ils ont dit, en tout cas. Ils ont été tentés par Hastings, qui visiblement avait une grande influence sur les gens qu'il rencontrait et qui était avocat, donc il parlait probablement très bien. Et il les a encouragés en disant, en leur expliquant qu'ils auraient un raccourci d'une quantité de kilomètres. Ça valait vraiment la peine.
C'est toujours très étonnant, évidemment, lorsqu'on regarde un western. C'est un peu moins la mode des westerns. Je crois que ça va revenir. C'est en train de revenir. Mais c'est toujours étonnant d'imaginer que des gens puissent quitter tout ce qu'ils avaient, puissent vendre leurs biens, puissent acheter des chariots et se lancer comme ça à la conquête du Grand Ouest. Il fallait une foi digne d'ébranler les montagnes. André Caspi, je vous salue d'abord, André Caspi. Merci d'être des nôtres. Les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent bien. Vous êtes le grand spécialiste de l'histoire américaine. C'est toujours étonnant pour nous, cette espèce de volonté d'aller conquérir l'Ouest.
Oui, je crois qu'il faut tenir compte de l'origine de ces pionniers. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas d'Europe. ils sont venus d'Europe, ou plutôt leurs parents, leurs grands-parents sont venus d'Europe. Ils se sont installés dans l'Est des États-Unis. Et là, ils n'y ont pas fait fortune. Ils ont souvent exploité des terres ingrates. Ils vont donc chercher l'aventure à l'Ouest, et comme on leur a annoncé qu'à l'Ouest, il y a des terres, et que bientôt on va leur annoncer qu'à l'Ouest, il y a de l'or, tout cela attire énormément. Mais évidemment, cela suppose la volonté d'affronter les obstacles, et on le voit bien dans le récit que vous venez de faire, ce sont des obstacles que l'on imagine mal aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous avons l'automobile, nous avons l'avion, nous avions le chemin de fer, mais à cette époque, rien de tout cela ne fonctionnait dans l'Ouest, ou même n'existait.
On peut dire, Franz Beckett, qu'il y avait une sorte de foi chez ces gens, ils étaient animés par quelque chose d'un petit peu surnaturel.
On a beaucoup parlé à ce moment-là de la destinée manifeste.
La destinée manifeste, c'est une notion importante.
Manifeste
oui.
Destinée. Et il y a aussi cette espèce de volonté sauvage de bouger, qui est très très américaine, que je retrouve dans ma famille américaine du reste. Ces Graves sont partis de chez eux, mais vraiment dans un coup de folie, parce qu'ils n'étaient sûrs de rien. Ils étaient simplement, il faut le dire aussi, intoxiqué par la publicité organisée par le gouvernement américain.
Oui, car on voulait évidemment susciter le plus possible de colons. Hein. On voulait que les gens se précipitent par milliers vers ces nouvelles terres qui restaient à conquérir.
Et ils voulaient faire le pays des deux océans.
C'est ça. Il fallait réunir les deux rives. Et donc, on mentait peut-être un peu aux gens. On leur laissait croire qu'ils allaient découvrir la terre promise.
Ah oui, avec des grappes de raisin de 10 kilos, avec des épis de blé de 25 centimètres.
Il faut dire que la Californie, but ultime de cette immense migration, était un territoire particulièrement attrayant, objectivement.
Oui, c'est vrai, mais pas au point des fantasmes qui ont été développés.
Alors, ce qui va rendre si difficile le trajet, cette lente pérégrination des Graves et des autres, hein, des Donner, des Reed qui sont avec eux, plusieurs familles, on a bien compris, se sont associées en quelque sorte, et ça constitue tout un train de chariots tirés par des bœufs, puis par des mules, ça dépend des zones qu'on a à traverser. C'est dans un premier temps la chaleur, la soif, le sel. On est dans le désert de l'Utah.
Ah oui, ça a été terrible. Parce que, évidemment, à partir du moment où les bœufs se sont enfuis et qu'on n'a absolument pas pu les retrouver, les chariots sont restés sur place. Donc, ils ont tout perdu dans ce désert.
Et ensuite, après avoir souffert de la chaleur et de la soif, ils vont souffrir du froid et de l'humidité.
Par malheur, les intempéries y sont pour beaucoup, parce que quand ils sont arrivés
année particulièrement.
L'hiver très précoce,
dur, hein,
et
46,
eux en retard. Oui. Par rapport à la planification du voyage. Et quand ils sont arrivés à la Sierra Nevada, chose tout à fait extraordinaire, il était tombé 10 mètres de neige. Alors on peut imaginer des chariots tirés par des bœufs dans 10 mètres de neige, c'est pas possible. Donc ils ont été obligés de créer deux camps différents. Et là, ils ont mangé les bœufs. Ils ont fait ensuite bouillir le cuir des attelages pour avoir une espèce de colle. Ensuite, ils ont mangé leurs chiens. C'est assez dramatique quand ils parlent d'un... C'était vraiment un bon chien, mais il était rôti.
Oui.
Ils mangent des souris et il n'y a pas de gibier qui se promène dans 10 mètres de neige. C'est impossible.
Et donc, on en vient finalement à manger de la chair humaine. Alors, on connaît un grand nombre d'épisodes dans l'histoire de cannibalisme obligé, en quelque sorte, dans des conditions de survie extrêmes. On a l'impression que, dans le cas précis, il y a presque une organisation, il y a une résignation très grande et une organisation qui se met en place.
Ce que je me suis beaucoup demandé, c'est s'ils auraient pu faire autrement.
Mmh.
Parce qu'en tout cas, un des garçons de cette équipe a refusé de manger de la viande et il a survécu. Donc, je me suis toujours demandé qui avait été le facteur déclenchant.
Et à votre arrière-grand-mère, on a posé, alors qu'elle était devenue une dame âgée, on lui a posé la question, c'est un de ses petits-fils qui lui dit « Est-ce que vous avez mangé de la viande humaine ?» Elle répond oui et elle fond en larmes.
Absolument, mais il y a une famille, la famille Donner, qui encore maintenant est en, essayent par tous les moyens de se disculper en disant que eux, ils n'ont pas mangé de chair humaine. Et on a financé des travaux d'archéologues sur le site de la cabane des Donner pour essayer de voir s'il y avait des morceaux d'os humain, et on n'en a pas trouvé. Donc, ils font de grandes recherches actuellement pour disculper la famille Donner.
Dans un instant, avec vous, Franz Beckett, et avec André Caspi, nous revenons sur cette extraordinaire épopée de la conquête de l'Ouest.
Peut-être reconnu la BO du film d'Henri Hathaway, La conquête de l'Ouest en 1962 sur Europe 1.
André Caspi, tous ces grands westerns des années 40, 50 et même 60 nous ont rendu évidemment tous ces pionniers de l'Ouest familiers. Est-ce qu'ils représentent dans l'histoire alors récente des États-Unis la volonté de donner comme modèle ces pionniers de l'Ouest au peuple moderne, au peuple actuel des États-Unis ?
Je crois que le mot modèle est un peu excessif. Ce que ces films veulent montrer, c'est avant tout l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire que on insiste sur une certaine identité américaine. Les Américains n'ont pas une histoire très longue. Et dans cette histoire, il y a des moments particulièrement héroïques. Donc la conquête de l'Ouest est considérée comme l'un de ces grands moments. Bien entendu, il faudrait sous-estimer un peu cet enthousiasme, parce que ces grands moments, ça suppose aussi des combats contre les Indiens, ça suppose aussi des batailles entre blancs pour la conquête des terres. Mais de toute évidence, il faut bien comprendre que cette histoire fait partie de la grande histoire des Américains. Aujourd'hui d'ailleurs, ce qu'il reste des westerns ne va pas exactement dans le même sens. C'est-à-dire que l'on a tendance à souligner les autres aspects de la conquête de l'Ouest.
Toutes les zones d'ombre maintenant.
Voilà. Alors, il ne faut pas confondre l'épopée telle qu'elle est racontée par Hollywood et l'histoire telle que malheureusement nous sommes contraints de la dire.
Oui. Alors cette conquête était en partie organisée par le gouvernement. C'est ce que nous disait Franz Beckett il y a un instant. C'est un aspect qu'on a tendance à négliger parfois.
Oui, alors ça dépend des périodes d'abord. Parce que s'il s'agit de 1846, le gouvernement fédéral n'est pas tellement dans la question. Ça n'est pas cela qu'il préoccupe. Bon, il est évidemment favorable à la conquête de l'Ouest, puisque en 1846, il engage la guerre contre le Mexique, et que 2 ans plus tard, cette guerre aboutit à l'annexion de la Californie et d'une grande partie du territoire des Rocheuses. D'ailleurs, c'est aussi en 1846 que le gouvernement fédéral achète, ou par négociation, le territoire de l'Oregon, qui aujourd'hui constitue 2 États de l'Ouest, c'est-à-dire l'État d'Oregon et l'État du Washington. Donc, ça veut donc dire que le gouvernement fédéral n'est pas indifférent. Mais le grand moment où l'État fédéral pousse à la colonisation, c'est lorsque les chemins de fer sont construits.
Bien sûr,
et le premier transcontinental qui entre en action date de 1869, c'est-à-dire après la guerre de sécession. Alors là, ça devient une toute autre affaire, parce qu'il s'agit en effet de peupler l'Ouest pour que les compagnies de chemin de fer fassent des bénéfices, et pour que ces compagnies attire les pionniers, il faut que les pionniers reçoivent des terres de chaque côté de la voie ferrée, de telle façon qu'ils puissent profiter de ce nouveau moyen de transport.
Alors entre la tragédie du Donner Party que nous venons d'évoquer et cette période de l'après-guerre de sécession, il y a un événement très important qui est la découverte de mines d'or à l'Ouest. Ça va être l'incroyable ruée vers l'or.
Alors la découverte de l'or en Californie date de 1848,
hein. Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que par la suite, en effet, on a découvert encore d'autres mines d'or. et des mines d'argent, d'ailleurs, il ne faut pas négliger les deux, parce qu'à l'époque, l'argent, l'or sont deux métaux précieux, même si l'argent vaut moins que l'or. Et évidemment, ça attire beaucoup, parce que il faut aller conquérir cette région, il faut essayer de faire fortune le plus rapidement possible. Et c'est ainsi, par exemple, qu'un petit village qui s'appelle San Francisco devient, en l'espace de quelques mois, une ville avec tout ce qui comporte, tout ce que l'on peut trouver dans une ville, des hôtels, des restaurants, des maisons de passe, parce qu'il y en a beaucoup. Bref, San Francisco prend son essor à cause de la découverte de l'or en Californie.
Il y a à ce moment-là une sorte d'explosion, c'est même plus de la croissance. Ça peut peut-être faire penser un peu à ce qui se passe en Extrême-Orient aujourd'hui. Pour les voyageurs, pour les chroniqueurs, c'est une source d'ébahissement permanent que ce qui se passe dans cet Ouest américain.
Ben, oui, parce qu'évidemment, c'est tout à fait nouveau. On n'avait encore jamais vu un phénomène de cette taille. Et en même temps, c'est très inquiétant pour beaucoup d'Américains parce que il faut établir le règne de la loi. Dans un premier temps, la loi n'est pas appliquée, c'est-à-dire que c'est la loi du plus fort, mais ce n'est pas la loi. Et pour établir la loi, il faut qu'un gouvernement se mette en place, il faut que le gouvernement fédéral intervienne, il faut qu'il y ait des institutions locales qui soient élues. Tout cela prend du temps. Et c'est là que l'on voit peut-être les caractéristiques de la démocratie américaine, c'est quelque chose qui surgit du peuple. C'est-à-dire, c'est le besoin d'organiser, de mettre en place des institutions qui fonctionnent. On le voit tout particulièrement à San Francisco. Parce que à San Francisco, en raison de l'insécurité, on crée des milices. C'est-à-dire que les simples citoyens décident de s'armer et de faire régner l'ordre dans leur quartier.
La fameuse loi du Far West.
Mais il est évident que cela ne peut pas durer.
Bien sûr.
Et que cela doit être remplacé par des institutions beaucoup plus légales.
Alors survient là-dessus la guerre civile, la guerre de sécession que nous avons d'ailleurs évoquée ici même ensemble il y a quelques mois, qui va donner aux États-Unis, c'est un peu l'acte de naissance des États-Unis modernes, et dans la foulée, alors les transformations même de la société américaine vont donner à cet Ouest et à ce Sud-Ouest américain une nouvelle dimension. Ça va être le pays des cow-boys. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Beringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessein. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke. Propre comme un archiduc, oncle Sam me doute. Hollywood nous burn, Hollywood burn. Dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns.
Nouveau western, MC Solar et ses cowboys, aux côtés de Franck Ferrand, Franz Beckett et André Caspi.
Oui, Franz Beckett qui est franco-américaine, journaliste et qui vient d'écrire « Ma grand-mère cannibale », l'épisode le plus noir de la conquête de l'Ouest, raconté donc par une descendante de Marianne Graves. Et puis André Caspi, historien spécialiste des États-Unis, qui a enseigné l'histoire de l'Amérique du Nord à Paris 1 Sorbonne et qui a écrit de nombreux ouvrages sur les États-Unis, notamment son dernier livre s'appelle « Les présidents américains de Washington à Obama ». Nous étions arrivés à cette période de basculement de la société américaine dans la seconde moitié du 19e siècle. Les grandes villes américaines à l'époque sont envahies par un flot d'immigrants venus d'Europe. Le pays s'urbanise, le niveau de vie décolle, les modes de consommation évoluent, notamment grâce à la conserve qui devient un mode d'alimentation aux États-Unis. Et tout ça rend nécessaire une augmentation très forte de la production de viande, de cette viande de bœuf qui va devenir la base de l'alimentation aux États-Unis. On crée des abattoirs abattoir géant à Chicago, puis à Kansas City. Seulement pour fournir à toute cette industrie, il faut développer l'élevage. Et en particulier dans les grandes plaines de l'Ouest qui ont été confisquées aux Indiens et de mieux en mieux contrôlées par l'armée fédérale. Au lendemain de la guerre de sécession, la voie ferrée du transcontinental dont on parlait à l'instant progresse de manière spectaculaire. La jonction est faite entre les deux côtes en 1867. N'oublions pas l'impact de l'entrée du Texas dans la Fédération. Il y avait là des troupeaux gigantesques de bovins à moitié sauvages qui descendaient de ceux introduits par les Espagnols au XVIIIe siècle dans toute cette pointe sud du pays. On estimait le nombre de têtes de bétail texan à 3,5 millions en 1870. D'où cette idée évidente. Il suffisait de rassembler ces bovins, de les engraisser en les menant sur les bonnes pâtures, puis de les parquer pour mieux les conduire au train qui les achemineraient vers le nord et l'est. Eh bien, ce travail, ce sera celui des cowboys. De grandes exploitations d'élevage, les ranchs se constituent. Le patron du ranch, le boss, recrute ses gardiens de troupeaux, ses cowboys, en mars et avril. Et les hommes en question mènent une vie souvent très dure. Ils doivent donc réunir le bétail, le marquer, le conduire, le parquer, le répartir en troupeaux jusqu'à cet embarquement en chemin de fer à la fin de l'automne. La plupart des cowboys sont eux-mêmes des immigrés ou bien des métis indiens ou mexicains. L'académicien Jacques Chastenet brossait dans les années 60, à la grande époque du western, donc un siècle après les faits, et il brossait ce portrait du cowboy. Ce serait une erreur de ne juger le cowboy que sur ces moments de brutale contraction, écrivait-il. Encore qu'un peu vain de sa personne et prompt à prendre la mouche, il est le plus souvent sérieux, sobre, taciturne et dur à la peine. Il ne doit être ni grand ni lourd pour ne pas fatiguer une monture dont la race est de petite taille. Son visage est tanné par le soleil, le vent et les pluies. Ses cheveux sont embroussaillés et il porte de longues moustaches. Le cow-boy glabre sera une invention des producteurs de films, écrit Jacques Chastenet. Cavalier dès son enfance, il fait avec son cheval et il fait un pardon avec son cheval et il est plus à l'aise en selle qu'à pied. Sur le sol, il marche les jambes arquées et avec quelques gaucheries. Eh bien, en voilà des clichés dans cette description du cow-boy par Jacques Chastenet. Néanmoins, c'est bien une figure mythique qui voit le jour dans les années 1870, André Caspi.
C'est une figure mythique, mais qui a surtout été mythifiée par le cinéma. C'est-à-dire qu'au fond, à l'époque des cowboys, on ne peut pas dire que le cowboy soit le modèle même que les Américains veulent suivre. Ce qu'il ne faut pas oublier d'ailleurs, c'est que avant même que les troupeaux ne soient transportés par les chemins de fer, ils y allaient par leurs propres moyens du Texas jusqu'à Chicago. C'est-à-dire c'est une entreprise considérable, c'est plusieurs milliers de kilomètres. Et ce qui veut dire qu'aussi que...
Évidemment, le bétail n'arrivait pas toujours en très bonne
et
santé.
Et en plus, le bétail n'hésitait pas en cours de route à manger tout ce qu'il trouvait sur son chemin. Ce qui fait que les quelques agriculteurs qui étaient installés sur la route des troupeaux tâchaient de protéger leurs champs. Et c'est ainsi qu'a été inventé le fil de fer barbelé. Parce que le fil de fer barbelé avait pour but justement de protéger les exploitations agricoles contre l'arrivée intempestive de ces troupeaux. Alors il est évident que le chemin de fer a contribué bien sûr à faciliter le travail des agriculteurs sédentaires et par conséquent à changer la nature même du personnage du cow-boy. Mais là encore, la description de Jacques Chastenet est particulièrement pittoresque. Je suppose qu'il avait dû rencontrer beaucoup de cow-boys pour pouvoir les décrire avec autant de détails. En ce qui me concerne, j'en ai rencontré très peu. Il ressemblait très vaguement à cette description. Mais je crois que surtout ce qu'il faut retenir, c'est que le cow-boy ne vit pas avec le colt dans la main, en train de tirer sur de mauvais garçons.
C'est ça. C'est-à-dire que cette violence, c'est là que je voulais en venir, cette violence qui est omniprésente évidemment dans les westerns, qui constitue le nœud même de l'intrigue de la plupart d'entre eux, cette violence n'est pas aussi répandue dans les faits que la fiction voudrait nous le faire croire. C'est important important de le préciser.
Bien sûr, parce que là encore, il faut mettre en place des institutions. C'est-à-dire que le problème que j'évoquais tout à l'heure à propos de San Francisco, on le retrouve dans les grandes plaines. Et il faut que des États se mettent en place, il faut que les États soient reconnus par l'État fédéral. Tout cela, ce sont des conditions qui exigent du temps, qui exigent aussi de la part de ceux qui viennent s'y installer, beaucoup de détermination et en même temps beaucoup de volonté démocratique. J'insiste bien là-dessus parce que on aurait pu imaginer au fond que dans toute cette région s'installe un régime qui aurait été complètement entre les mains de Washington et qui aurait ressemblé à une sorte de colonie. Pas du tout. C'est-à-dire que les Américains de l'Ouest ou les Américains des Grandes Plaines prennent leur sort dans leurs mains. C'est cela qui est important et c'est cela qui caractérise la démocratie américaine.
Oui, et l'esprit même des États-Unis. À partir de quand peut-on dater la fin de cette poussée vers l'Ouest ? Quand est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus de frontières, qu'il n'y a plus de
but ? Les historiens du début du XXe siècle dataient cela de 1890. Pourquoi 1890 ? Parce qu'il y a un recensement tous les 10 ans aux États-Unis et qu'à partir du recensement de 1890, ce que l'on appelle la frontière aux États-Unis, c'est-à-dire le nombre d'habitants au kilomètre carré qui soit inférieur à 2 habitants par kilomètre carré, cette frontière a disparu, donc on estime que désormais il n'y a plus de frontière. Mais il n'empêche qu'il y a encore de vastes territoires. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, par exemple, les États-Unis ont une superficie qui est supérieure à 9 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 20 fois la France, et leur population est de 313 millions. Alors évidemment, c'est beaucoup plus que la nôtre, mais pour la densité, vous voyez qu'ils ont encore beaucoup pour nous rattraper.
Oui, ils ont beaucoup de marge encore. Franz Beckett, vous avez écrit ce livre, dites-vous, Ma grand-mère cannibale. Vous racontez donc cette extraordinaire expédition de 1846. D'abord, pour vos propres enfants et petits-enfants, pour vos descendants, pour la famille ?
Absolument, et vous avez rappelé que je suis franco-américaine, et je trouve que lorsqu'on appartient à deux cultures et à deux civilisations en même temps, on a le devoir sacré d'expliquer l'un à l'autre. Quand je suis aux États-Unis, je parle de la France et j'essaye d'expliquer ce qui s'y passe. Et à l'inverse, je trouvais logique et normal que je raconte à mes petits-enfants français ce qui s'est passé dans leur famille américaine.
Et au-delà de vos petits-enfants français, ce sont les Français eux-mêmes à qui vous apprenez tout ça. Car si l'épisode est très connu aux États-Unis, c'est donc un mythe fondateur quasiment aux États-Unis, André Caspi.
Fondateur, si on peut dire.
Oui, enfin, disons,
c'est certainement une partie dramatique, mais réelle, de l'histoire des États-Unis, et en particulier de la conquête de l'Ouest.
Mais en revanche, en France, effectivement, personne ne connaissait cette terrible histoire, cet épisode particulièrement noir de la conquête de l'Ouest. C'est donc à vous qu'il aura appartenu, Franz Beckett, de nous le faire connaître. Ma grand-mère cannibale, c'est édité aux éditions Prisma. Vous avez l'intention de continuer, j'allais dire, sur cette lancée-là et de nous raconter d'autres belles histoires de l'Ouest ?
Pas forcément de l'Ouest, mais comme j'ai eu une vie très mouvementée comme journaliste, reporter, et j'ai énormément d'anecdotes et d'aventures, et maintenant on me demande de les raconter. Il faut que je me dépêche.
Oui, mais nous attendons en tout cas la suite parce que c'est très bien raconté et très passionnant. Marjorie nous dit par internet, elle nous parle des mémoires de Laura Ingalls, auxquelles, dit-elle, l'insipide feuilleton télévisé ne rend pas justice. C'est vrai que ça fait partie, ça aussi, des grands récits de l'Ouest. Hein, les mémoires, les vraies mémoires de Laura Ingalls, pas le feuilleton La Petite Maison de la Prairie, qui néanmoins est, moi je trouve, pas si insipide que ça, et assez agréable. Merci beaucoup André Caspi de nous avoir rendu visite. Je renvoie à tous vos ouvrages sur les États-Unis et puis vous allez bientôt nous reparler de l'élection américaine puisqu'on s'en approche à grands pas.
Bah écoutez, très volontiers, dès que vous m'invitez, je vous en parle.
Vous êtes toujours le bienvenu, vous le savez. Merci beaucoup à toute l'équipe, à Lorena, à Alexandre, à Guillaume, et nous allons retrouver dans un instant, Elena Morna, non seulement au Salon de l'agriculture, mais précisément sur le stand des produits laitiers. Bonjour Elena.
Bonjour Franck, bonjour à vous tous. Effectivement, c'est au stand des produits laitiers au Salon de l'agriculture que nous nous trouvons aujourd'hui pour une émission donc en direct. Et nous allons parler du thème, de la thématique du salon, à savoir de l'emploi. Franck, je suis sûre, enfin, je vous verrai bien, je sais pas... Traire les vaches à 5h du matin, ça vous dit pas comme job ça?
Bah,
parce qu'on
pas.
Cherche du monde.
Moi vous savez, j'ai fait tellement de choses dans ma vie, je ne suis plus à une expérience près, je suis certain que celle-là est intéressante.
Bah alors venez nous rejoindre et on en parle avec les experts. Et puis vous, si vous avez des questions ou si vous avez envie de témoigner en tant qu'agriculteur, surtout n'hésitez pas, le numéro de téléphone c'est toujours le 3921, on vous rappelle juste après, hein, c'est 34 centimes d'euros la minute, ou vous pouvez témoigner sur europe1.fr. Franck.
Merci beaucoup Elena, je ne sais pas si vous êtes encore là-bas demain, sinon je vous dis à demain.
Moi, nous je vous dis, non, je reviens vous voir au studio Coluche, vous avez trop manqué, deux jours, ce ne sera pas possible.
Et nous nous retrouvons, nous, demain, Caroline.
Demain, en studio.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.